Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes. Allez,
bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes, c'est incroyable, le mercredi 10 mars, il est 8h30 et avec moi Corto. Salut Corto.
Bonjour mon Ben et bonjour à tous.
Et merci pour le café ce matin, tu nous as sauvé la vie. Au programme de cette matinale, dans un instant, nous recevrons Val, qui est auteur de bande dessinée Au Pont de Montvert. Le deuxième tome de son excellent chien de berger Jean-Michel sort en juin, je l'ai eu en exclusivité, merci beaucoup à lui. Mais il a d'autres actus et il viendra nous en parler dans un instant. En deuxième partie d'émission, un reportage qu'a fait Cléo sur le musée imaginaire des enfants de Lozère, ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique évidemment, mais on commence bien sûr par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Le 2 juillet 1966, dans le plus grand secret, la France procède à son premier essai nucléaire dans le ciel polynésien. Ce jour-là, à 5h34 du matin, Aldébaran, le nom donné à la bombe, est tiré depuis une barge installée sur un lagon bleu azur à proximité de l'atoll de Mururoa. Quelques microsecondes après l'explosion, une boule de feu apparaît. Cette masse incandescente de plusieurs milliers de degrés s'élève dans le ciel et forme, en refroidissant, un immense nuage de poussière radioactive dispersé par les vents. Pas moins de 46 essais atmosphériques, comme on dit, comme celui-ci, ont été réalisés en l'espace de 8 ans. À chaque fois, l'explosion a engendré des retombées contaminant tout sur leur passage, à commencer par les habitants des îles. Au total, ils ont été exposés, tenez-vous bien, à 297 fois à des niveaux de radioactivité intenses. L'état-major des armées s'est toujours tenu à la même ligne de défense. Les tests atmosphériques présentés comme propres n'aurait pas eu de conséquences pour la santé des Polynésiens. Bah tiens. Depuis des années, les associations de défense des victimes des essais sont convaincues du contraire. Quant à la communauté scientifique, elle a tenté à plusieurs reprises de vérifier cette position au travers d'analyses approfondies des données officielles, mais sans succès. Dernière illustration de cet échec, l'étude publiée par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, le 18 février. Au terme de ce travail commandé par le ministère de la Défense il y a 8 ans, l'INSERM a estimé que les liens, je cite, les liens entre retombées des essais nucléaires atmosphériques et la survenue de pathologie radio-induite était difficile à établir, faute de données fiables sur la contamination des archipels. Pourtant, un rapport confidentiel remis au gouvernement polynésien un an plus tôt, en février 2020, soutient le contraire. Disclose a obtenu une copie de ce document encore jamais rendu public. Sobrement intitulé « Conséquences sanitaires des essais nucléaires français dans le Pacifique », ce rapport de 8 pages a été rédigé par un médecin militaire français sur demande du Centre médical de suivi, une administration créée en 2007 par des gouvernements français et polynésiens et chargée de dépister les maladies radio-induites, autrement dit, les pathologies liées à une explosion répétée au rayonnement ionisant. D'après l'auteur, quelques 10 000 Polynésiens, dont 600 enfants de moins de 15 ans vivant aux îles Gambier, à Turea et ou encore à Tahiti, auraient reçu une dose de radioactivité de 5 millisieverts MSV, soit 5 fois plus que le seuil minimum, 1 MSV, à partir duquel l'exposition est jugée dangereuse pour la santé humaine. Mais d'ici là que l'État reconnaisse quoi que ce soit, c'est pas demain la veille. Allez, on écoute la Mano, il y a Val qui nous rejoint, la Mano Negra, le morceau s'appelle « Me passer de toi ».
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi,
comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me
passer de toi.
On vient d'écouter la Mano Negra, pas assez de toi, et nous a rejoint Val, bonjour.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de te recevoir, merci.
Mais merci à toi. Oui, merci à toi.
Et dis donc, il y a deux, trois trucs qui vont se passer pour toi en 2021, vive 2020.
C'est exactement, il y a plein de choses qui vont se passer.
Auditeurs, auditrices, je tiens à vous le dire maintenant, cette interview va être frustrante. Troupeau, pour être honnête, voilà le tome 2 de Jean-Michel qui sort. Oh là là, t'as une idée ?
Ouais, c'est prévu pour le mois de juin, donc j'espère que sur cet été, on pourra inonder la Lozère, ses marchés et les festivals environnants.
On va en parler des marchés, des salons, etc. Parce que il se passe des trucs, ça se fait en virtuel maintenant. On en parle dans un instant. En tout cas, ce sera aux éditions Bande à part, quoi qu'il arrive.
De tout à fait. Pardon.
De tout à fait.
De tout à fait.
De tout à fait.
C'est un mix entre de toute façon et tout à fait. Ouais, donc ce sera chez Bande à part, petit éditeur belge qui avait déjà sorti le premier tome de Jean-Michel, et donc on est reparti sur le second.
Alors pourquoi je vous dis frustrante, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir le crayonné, c'est comme ça qu'on dit ?
Ouais, c'est ça.
Le crayonné, alors je peux rien dévoiler ou très peu de choses. Jean-Michel, chien de berger, déjà c'est très drôle, ça c'est clair, mais comment tu bosses ? Parce qu'en fait j'ai appris plein de trucs, c'est-à-dire que c'est des espèces de pantins d'abord, en fait on voit pas les personnages, et puis après les personnages se dessinent au-dessus de ce pantin.
Ouais, c'est un peu l'idée. Quand je fais mes scénarios, je les dessine, mais alors de manière très rapide, sur trois post-it. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, je fais des Monsieur Patate, quoi, hein, une boule, deux bras,
deux jambes.
C'est ça,
Monsieur Patate,
voilà,
c'est ça.
C'est ça. Ouais. Deux boules, deux jambes, et puis j'essaie simplement de les incruster sur la case, et avec la petite phrase qui m'intéresse pour le scénario. Et puis seulement après, je fais mon crayonné, c'est celui que tu as eu dans les mains d'ailleurs. Et puis au départ du crayonné, à ce moment-là, je passe à l'ancrage et puis à la couleur. Voilà.
Est-ce que tu envoies ça à ton éditeur et il valide ? Ou alors est-ce que toi tu bosses et tu lui envoies le projet entre guillemets fini ?
Alors j'envoie le projet, le scénario, j'envoie quelques pages, j'ai envie de dire finalisées ou en tout cas semi-finalisées, il valide ou il valide pas, et puis après là on lance la machine. Alors ça dépend des éditeurs. Quand je travaille avec d'autres éditeurs par exemple, où là c'est vraiment à la page, qui valide chaque scénario de chaque page. Voilà, ça dépend vraiment un peu des éditeurs. Ici avec Bande à part, c'est plutôt tranquille. David nous laisse à travailler. On a plutôt carte blanche. Voilà.
Est-ce qu'on peut rire de tout, Val ?
Oui, on doit rire de tout. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit rire de tout. La vie est trop chiante. Il faut pouvoir rire de tout. Rien ne doit être sacré.
Est-ce que tu te lèves le matin et tu te dis ça c'est une bonne vanne, ça me fait rire, et du coup tu peux la retranscrire sur papier? Ou alors est-ce qu'au final tu te dis ah non, je me censure un peu? Comment ça se passe pour toi? En fait, une vanne, et on s'en fait quand même deux,
plein.
Trois, voilà, à chaque fois qu'on se voit. Mais est-ce que justement tu te censures? Est-ce qu'un truc te fait rire, tu vas le mettre dans la BD? Et est-ce que, par exemple, moi j'ai eu le crayonné, il n'y en a pas une qui ne m'a pas fait rire, j'avoue. Mais est-ce que si jamais quelqu'un te dit tiens, ça m'a pas fait rire, tu vas l'enlever? Comment ça se passe?
Non, ça dépend. Il y a une forme d'autocensure, mais tout dépend de ce qu'on fait. Bon, ici par exemple, Jean-Michel, on est sur. On a un public cible, évidemment. On va cibler le tout public. Donc, forcément, il va y avoir une autocensure. Mais qui se fait naturellement, c'est-à-dire que on va pas y mettre n'importe quelle vanne puisque c'est du tout public, et donc si on met une vanne un peu trop caustique, elle n'aura pas sa place dans l'histoire, tout simplement, naturellement. À l'inverse, si j'ai une commande pour faire de l'humour très caustique, comme on a eu dans le temps avec un collectif d'amis, là on est plutôt dans on se lâche et on va chercher nos limites, nos propres limites, parce qu'on a tous une sensibilité différente. Mais voilà, ça dépend un petit peu du public qui est visé, tout simplement, j'ai envie de dire ça.
Donc c'est-à-dire que il y a des vannes qui passeraient pas dans Jean-Michel, qui passeraient pour Lily et Doudou Monstre par exemple.
Mais par exemple, voilà, Lily et Doudou Monstre, là, le public cible, c'était clairement un public jeunesse. Donc, on savait qu'il y avait certaines choses que... Mais encore une fois, ça se fait naturellement au moment du scénario, puisqu'on va pas chercher à brutaliser quelque part notre public non plus, en fonction de l'histoire. À dire Jean-Michel ici, c'est du tout public, enfant, adulte. Il faut que ça plaise à tout le monde. Et effectivement, quand j'ai une vanne et qui me fait rire, après je sais que moi j'aime l'humour caustique. Alors de temps en temps, je me dis bon, allez, là ça me fait rire moi, mais ça va pas faire rire tout le monde. Et ça ne va pas participer à l'histoire, tout simplement. Il faut déjà voir ça. Est-ce que la blague participe à l'histoire ou non?
On peut tous voir des références. Alors, par exemple, on en a parlé hors antenne. Hein, j'ai vu avec les trois petits vieux assis qui commandent tout une référence à Astérix chez les Corses. Je t'en ai parlé, tu m'as dit « Ah non, pas du tout ». En fait, j'ai pas eu la chance, c'est vrai, je l'avoue, de lire le tome 1 de Jean-Michel. Hein,
ouais.
Et j'ai vu cette référence-là. Est-ce que ma référence t'a dérangé? Ou alors, est-ce qu'elle t'a fait plaisir? Ou alors, est-ce que t'y penses? Et est-ce qu'il y a des références que tu glisses comme ça à droite à gauche dans tes BD?
Alors, j'y pense pas. Maintenant, on a les références qu'on a. Je veux dire, moi, j'ai toujours été un lecteur BD, donc forcément, on peut pas faire sans. J'ai grandi avec Astérix, j'ai grandi avec Franquin, Donc, j'imagine que ça doit être en moi quelque part, parce que c'est avec eux que j'ai appris à faire de la BD. Hein. Ouais. Donc, j'imagine que ça doit être en moi. Maintenant, non, j'y pense pas quand je le fais. Justement, j'essaye un peu de sortir de ces codes. Mais par contre, chacun y voit les références qu'il a envie d'y voir. Moi, quand j'ai sorti le premier tome de Jean-Michel, un chien de berger, des moutons, tout le monde m'a dit « Ah, ça me fait penser à Fmur, le génie des alpages ».
Bien sûr, j'en ai parlé à Corto, notre cher technicien qui n'est pas là ce matin, mais j'en ai parlé, oui, ça m'a fait penser au génie des alpages.
Et alors que ça n'a strictement rien à voir.
Rien à voir dans l'humour et dans le dessin, dans le graphisme.
C'est, donc, il y a cette référence, chien de berger, mouton, montagne, Bloom, tout le monde s'enfonce en... Ah, mais évidemment, ça me fait plaisir, hein. Je veux dire, c'est pas... quand on a sorti Lily et Doudouman, tout le monde faisait la comparaison avec Calvin et Hobbes.
Ah oui, c'est très clairement ce que j'ai fait.
Oui.
Sur cette antenne, d'ailleurs.
Mais t'es pas le seul. Je veux dire, il y en a plein qui l'ont fait. Alors, c'est plaisant. Hein. Je veux dire, faut pas... on va pas bouder notre plaisir. Je préfère qu'on me compare à ça qu'à autre chose.
C'est clair.
Mais... non, moi, ça me pose pas de soucis. Effectivement, il y a des références que j'avais pas vues. Ma compagne, par exemple, quand elle a lu Le Crayonné ici, elle m'a dit, mais tiens, il y a un des héros, Benjamin, le Patou. Elle me dit, il me fait penser à Obélix. Je dis, j'avais pas vu. Et depuis qu'elle me l'a dit, effectivement, je me dis, ah ouais, effectivement, de temps en temps, il y a quelques mimiques comme ça. Bon, c'est pas voulu, mais c'est comme ça. Et pourquoi pas, finalement.
Et sachez, auditeurs, auditrices, qu'il n'est nullement question de plagiat. Hein, c'est juste, comme tu dis, les références qu'on a. Jean-Michel, très clairement, t'as voulu... Donc, Jean-Michel, c'est le personnage principal, entre guillemets. Mais là, pour ce tome-là, tu t'es amusé et t'as... au personnage secondaire voulu donner plus d'importance, en fait, notamment au mouton.
Oui, ouais, beaucoup plus de corps. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le premier tome de Jean-Michel, où les moutons apparaissaient, et il y a plein de gens qui m'ont dit « on adore tes moutons », alors qu'ils étaient clairement des personnages secondaires, et je me suis dit « tiens, cette fois-ci, je vais vraiment essayer de les mettre comme... » Comment je vais dire ça? C'est ceux qui donnent du corps à l'histoire. Finalement, le héros principal, un peu comme dans un film d'animation, hein, le héros principal, effectivement, est le fil conducteur. Mais ce qui donne la dynamique et le corps à l'histoire, ce sont tous les personnages secondaires, et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'espère y avoir réussi ça. Et visiblement, de ce que tu me dis, ça a l'air de fonctionner.
J'ai très envie de te dire que oui, c'est réussi. Et puis, cette rencontre fortuite, qui est absolument incroyable, dont je ne peux rien dévoiler. Je vous avais dit, auditeur, auditrice, que cette interview allait être frustrante. Val, l'idée, c'est de parler aussi tranquille de BD. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la BD? Ah oui, je sais, c'est une question... Ouais.
Je sais pas.
Auditeur, auditrice, je vous avais dit que cette interview allait être frustrante.
Je sais pas, j'ai toujours voulu faire de la BD, aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours dessiné de la BD. J'ai eu la frustration de ne pas pouvoir faire l'école, mes études artistiques, parce que ma mère n'a jamais voulu que j'aille dans le côté artistique. Mais j'ai toujours dessiné. Et puis, il est arrivé un moment où je me suis dit, j'arrête de dessiner dans mes marges pendant les réunions. J'en fais quelque chose. Voilà, tout simplement.
T'aurais voulu faire Saint-Luc?
J'aurais aimé faire Saint-Luc, ouais.
Saint-Luc est une école d'art en Belgique, du côté de Tournai.
Ouais, Saint-Luc ou la Cambre, ou que sais-je, mais déjà, j'étais pas un très bon élève à l'école, donc j'étais pas spécialement un amateur d'école.
Ce qui n'empêche pas de réussir.
Ce qui n'empêche pas de réussir, voilà. C'est surtout vers 40 ans, je me suis dit, on n'a qu'une vie, et si j'ai pas envie de me réveiller à 60 balais en me disant, si j'avais su, j'aurais dû faire, j'aurais dû pousser. Voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai bousculé mes habitudes, mon confort de vie, pour essayer d'en faire quelque chose, en me disant, je me donne 10 ans pour arriver à en faire quelque chose. J'ai commencé en 2014.
Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Voilà. 2014, bon, il te reste trop... Oh, tranquille.
Et bon, mais ça va, j'ai pas trop à me plaindre, puisque voilà, il y a quand même pas mal de petites choses. J'ai quoi, une dizaine d'albums à mon actif maintenant, qui n'ont pas spécialement de succès. Hein. La question du succès n'est pas celle que je recherche, mais plutôt d'avoir quelque chose. Chaque fois que je termine un album, d'être content de moi. Voilà. Après, mon frigo préférerait que je... qui ait du succès, mais ça, c'est autre chose.
Une BD sur un frigo, ça peut être rigolo.
Ouais.
Avant de parler d'un autre projet que tu as, est-ce que tu aurais comme ça quelques artistes, dessinateurs, auteurs, autrices, d'ailleurs, auteureux, que tu pourrais conseiller.
On peut dire auteur, autrice, ouais, dire les deux. Conseiller des auteurs, autrices lozériens, lozériennes, ou peu importe.
Peu importe, fais-toi plaisir.
La lecture BD, bon, parce qu'en Lozère, on a quand même quelques bons coups de crayon, quelques belles plumes, hein. Marco Boutet, il y a Juliette Lévéjac, il y a Nini Moon sur Marvejol, il y a Xavier Boulot ici à Florac. Sinon, dans l'ensemble, moi je m'éclate toujours quand je lis une bonne BD. Pour l'instant, c'est du Thébault. Donc Thébault, c'est Captain Biceps, c'est Roll, ça reste toujours un vrai plaisir. Je reste fan et un inconditionnel de Franquin, évidemment. Pour moi, c'est le maître absolu.
Et puis cette création magique du Marsipulami.
Mais de tous ces personnages, je veux dire, quand il faisait du Spirou et du Fantasio, quand il a fait Gaston Lagaffe, quand on voit les Idées Noires, qui est un album sensationnel. Donc je ne connais pas un raté de chez Franquin, plus tous ces petits monstres, parce qu'il en a fait plein, donc il a vraiment une patte extraordinaire. Mais il y a tellement de belles pattes dans la BD, de tous les styles. Actuellement, je m'éclate aussi en science-fiction avec une BD qui s'appelle Orbital, de Serge Pellet. Et il faut savoir que chaque case, donc je parle bien d'une case et pas d'une planche, hein, c'est chaque case, c'est dessiné manuellement, c'est dessiné, c'est peint en couleur directe, et c'est un tableau. Donc c'est la taille d'un tableau qu'on peut peindre dans son salon, et ça c'est une case. Alors quand on le voit en vrai, c'est juste magique, et une BD en plus, le scénario, c'est vraiment ravissant, c'est génial. Quand on aime la science-fiction, voilà, c'est...
Ouais, et puis aussi, derrière, tu parlais de Franquin, les éditions Dupuis, qui sont absolument incroyables. Tu as une autre actu qui est assez rigolote, qui s'appelle Appli Aor, qui est très drôle d'ailleurs, et c'est avec Olivier Gannon.
C'est ça.
La couve donne envie. Pas lu le projet, c'est sorti, ça va sortir, comment ça se passe?
Alors, c'est prévu pour fin de l'été. Donc voilà, où je suis là au scénario, Olivier au dessin, et je suis derrière pour la couleur. Donc chez Bande à Part aussi.
On ne change pas une équipe qui gagne.
Donc là, c'est prévu, une sortie prévue fin août, début septembre. Et avec la petite chance de plus que probablement être distribué au Canada. Puisque les éditions Bande à Part sont associées avec un éditeur canadien, et l'éditeur canadien est super intéressé par la BD d'Appli Hour, puisque ça touche tout le monde, puisque ça parle des applications, du monde hyper connecté, et voilà.
Surtout en cette période assez tendue. Oui. Comment s'est passée cette rencontre avec Olivier Gannon?
Olivier, on s'est rencontrés sur les festivals, le festival de dessin de presse. Olivier fait de la caricature en direct, et on s'est rencontrés sur les festivals de dessin de presse, où on a sympathisé très vite, on était ensemble dans le collectif des Malabar, là où on faisait de l'humour.
les deux vont de pair, il faut de l'amour dans l'humour et il faut de l'humour dans l'amour, c'est très bien.
Et donc on était dans ce collectif à l'humour, décidément je vais y arriver, à l'humour très caustique, enfin plus que caustique, très trash quand même, hein. Mais on s'est bien éclaté, on était une bande de potes, et avec Olivier on a sympathisé, Olivier de Béziers, et donc on est devenus des amis, et ça faisait longtemps qu'on rêvait de faire quelque chose ensemble. Et donc, voilà, je lui ai proposé un scénario. Il a dit, allez, banco, on y va. On a proposé le projet à Bande à Part. Il a dit, allez hop, banco, on y va. Et donc, la machine est lancée.
Voilà. Scénar, dessin. Est-ce que c'est assez étonnant. Pour moi, ça me dépasse. Je ne dessine pas. Voilà. Et le truc, c'est que je me dis, est-ce qu'on peut scénariser sans dessiner? Et est-ce que t'es pas déçu, en fait, quand tu vois, des fois, peut-être que t'as scénarisé d'autres choses, ou est-ce que le scénariste peut être déçu par le dessin? Est-ce que, enfin, comment ça se passe, en fait?
Mais tout peut arriver. Après, encore une fois, chaque scénariste ou chaque dessinateur a sa manière de travailler. Il y a des scénaristes qui ne font qu'écrire. Moi, je peux pas. Quand je scénarise, je dessine mes scénarios. Je peux pas juste les écrire parce qu'il faut que j'imagine ce que ça va donner en images.
Mais d'où là,
mais ça, c'est moi.
Et d'où là cette collaboration avec Olivier, c'est-à-dire que si tu dois dessiner chaque scénario que là t'as scénarisé.
Oui, c'est ça. Moi, je lui envoie un, mais c'est un trait très rapide, évidemment. D'accord. Ça permet simplement de voir quel personnage est à droite, quel personnage est à gauche, en haut de la case. C'est juste ça. Ça donne une idée générale du dessin que ça va être. Et le dessinateur, après, chaque dessinateur, c'est comme les scénaristes, chaque dessinateur est différent. Il y a des dessinateurs qui préfèrent dessiner à partir d'un écrit, parce qu'ils peuvent partir dans tous les sens, puis des dessinateurs qui préfèrent lui dire non, vas-y, mais mets tes personnages, en tout cas la forme, là où la bulle elle va être, et je vais me calquer plus ou moins sur là-dessus pour construire mes cases. Mais chaque personne est différente, et en général, pour répondre à la deuxième question de la déception qu'on pouvait avoir, elle peut exister, mais en général quand on se connaît. Scénaristes et dessinateurs, on ne travaille pas ensemble n'importe comment. On n'est pas juste des employés qui se rencontrent le lundi et qui doivent faire un truc pour le vendredi. En général, un scénariste va demander à un tel dessinateur parce qu'il connaît, ou tel dessinateur va demander à un scénariste parce qu'il le connaît, et ils s'entendent bien et ils se comprennent. Voilà.
Les salons de BD virtuels. Alors, en préparant cette interview, j'avoue que je suis allé sur ta page Facebook Val Dessinateur BD. Donc j'ai vu que tu en avais fait quelques-uns. Comment ça se passe?
c'est bizarre. C'était une première pour moi, puisque normalement il devait y avoir un festival à Grande Combe en février. Et puis bon, ben voilà, Covid oblige, la plupart des festivals s'annulent au fur et à mesure. Et il y a un groupe de dessinateurs, dont certains viennent régulièrement à Saint-Enimi d'ailleurs. Et ils ont créé, au départ, d'un logiciel d'échange pour gamers. Ils ont créé des festivals virtuels. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, on se filme en train de dessiner, on dédicace et les gens viennent voir. Ils nous voient en train de dessiner et ils peuvent nous parler. Donc, on garde, j'ai envie de dire, ce côté échange avec le public. Ils ont toujours le plaisir de voir un auteur dessiner, dédicacer un album. Et puis, quand le festival est terminé, on envoie l'album aux personnes qui l'ont acheté, tout simplement. Il y a juste, j'ai envie de dire, le temps de la poste de retard, le temps de l'envoi de retard. Mais sinon, on retrouve les mêmes éléments. Après, comme il peut y avoir des gens qui passent, ce que j'ai eu dernièrement au festival virtuel que j'ai fait, beaucoup de gens passaient voir, mais ils discutaient même pas, ils n'étaient pas là pour ça, ils venaient, ils ne discutaient pas, ils regardaient, puis ils repartaient.
Donc ça peut se passer finalement sur un festival.
Ça peut se passer sur un festival, la seule différence c'est les échanges entre les auteurs. on peut pas boire un coup ensemble, par exemple. C'est ce genre de choses. En général, on est tout seul dans son bureau et puis on attend. Et puis c'est difficile de mettre de la dynamique quand on n'est pas habitué. Le virtuel, il y a quand même une distance. Donc c'était une première expérience, pas la plus concluante en ce qui me concerne, mais pourquoi pas, voilà.
Croisons les doigts pour que le festival Saint-Enimi BD se passe, évidemment. Ici.
C'est quand même un des plus hauts en France. Hein.
Et quoi qu'il arrive, on a une petite idée, Val, d'un truc qui devrait se passer quand même.
On a une petite idée.
C'est pour ça aujourd'hui que tu étais là, notamment pour parler de ton actu, mais aussi d'un petit truc qui pourrait, croisons les doigts, se passer. Merci beaucoup, Val.
Mais je t'en prie. Merci à toi. Et alors, petite info aussi, pour les sorties BD, il y en a une qui sort ici au mois d'avril chez Bambou, autour du jeu d'échecs, avec Christophe Cazeneuve et Mick, avec qui on avait déjà participé sur Lily et Doudoumont. Donc cet album est fait, il sort ici au mois d'avril chez Bambou, et il y aura 4 tomes, avec un petit cahier pédagogique à la fin de l'album à chaque fois, pour comprendre le monde du jeu d'échecs.
Tu fais tellement bien d'en parler,
ouais.
Et j'aime bien les surprises le matin. Merci beaucoup en tout cas à Jean-Michel Bandeur, Folie, ce sera à paraître chez Bande à Part, Happy Hour avec Olivier Gannon.
C'est ça.
Chez le même éditeur.
Chez le même éditeur.
Puisque voilà, et dès que vous les voyez, voyez, auditeur, auditrice, jetez-vous dessus. Je vous assure que vous avez passé un moment génial. J'adore mon boulot. Quand je dois lire de la BD le matin en me levant, il y a des vannes. Vraiment, j'ai explosé de rire. Et c'est pas de la flagornerie, je l'avoue. À très
merci
bientôt.
Merci à toi. À bientôt.
Ciao.
Ciao.
Dans un instant, l'ardive d'un reportage de Kéo sur le musée imaginaire des enfants de Lozère. On écoute d'abord une chanson proposée par Val d'un groupe qui s'appelle Été 67 et le morceau s'appelle Le quartier de la gare.
Dans toutes les villes du monde, le quartier le plus immonde, c'est toujours celui de la gare où l'on n'ose pas sortir le soir. Il y a là des gens de passage qui ont comme arme leur bagage, qui dissimulent mal leur stress. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste. Je veux parler des putes et des travelants, des camins et des proxos, des arrières-salles dans les bars, et puis du flingue sous le comptoir. Il y a ceux qui courent au boulot, il y a les chiens et leurs clodos. Toi tu n'oses pas mettre le nez dehors, et moi j'en crève tellement j'adore. Il y a toujours de la lumière pour éclairer la misère, il y a ceux qui meurent et ceux qui se marrent dans le quartier de la gare. Ça s'appelle Guimain ou Termini, Gare du Nord ou du Midi. Ça s'appelle Gare d'Austerlitz ou bien Waterloo Station. Et pourtant c'est partout pareil, sous la pluie et sous le soleil. Des hommes dorment sous des cartons, pendant que d'autres pensent à leurs pognons. Il y a les poètes et les artistes, les jongleurs pour touristes. Ça sent le rêve et le désespoir, l'illusion et le film noir. Dans toutes les villes du monde, le quartier le plus immonde, c'est toujours celui de la gare où l'on n'ose pas sortir le soir. Il y a toujours de la lumière pour éclairer la misère, et ceux qui meurent et ceux qui se marrent dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare,
ceux qui meurent et ceux qui se marrent.
Dans le quartier de la gare.
Le quartier de la gare, les liégeois du groupe Été 67, des petits belges, d'où le choix de Val ce matin. Le musée imaginaire des enfants de Lozère, c'est un musée dont les œuvres sont choisies par les enfants. Pensées, réfléchies, ressenties, expliquées par leurs soins, on y goûte, sans voix, touche. Écoute des tableaux de Courbet, Van Gogh, j'en serai, j'en passe, et des meilleurs. Merci à vous les mômes.
Danser véronaise, entendre un Kandinsky ou goûter un Delacroix, c'est ce que nous proposent les enfants de l'école de Vébron. L'expérience de nouvelles formes de médiation. Une approche de l'histoire de l'art qui ne se contenterait plus seulement du regard. Dans le musée imaginaire des enfants de Lozère, on explore les sens, un par un. On les déploie, on les déplie, on les relie les uns aux autres par des passages secrets, poétiques, invisibles. On fait partir les œuvres dans tous les sens, afin de les relier, une fois pour toutes, à l'imagination.
Alors notre compagnie, c'est l'Apocalypse Joyeuse, c'est une compagnie de spectacle vivant qui a fait son premier spectacle il y a 2 ans. Et puis son deuxième spectacle, eh bien, on l'a joué à Vébron. Donc on a mis un premier pied en Lozère et on s'est dit quitte à en mettre un, on va mettre le deuxième. Donc là, on fait un nouveau projet à l'école de Vébron. C'est un projet de création d'un musée, ça va s'appeler le Musée imaginaire des enfants de Lozère. Ça fait miel. Et les enfants, les élèves de l'école de Vébron vont présenter ce projet devant les élèves des écoles de Florac et aussi devant qui veut venir.
Alors, bonjour. Je vais vous présenter l'œuvre de René Magritte. René Magritte, en fait, il voulait faire mentir les images. Et du coup, pour les faire mentir, eh ben, il a peint une rue qui est réelle. Il a peint un ciel qui est réel et une rue noire avec un ciel blanc, et ben c'est pas du tout réel. Je vais prendre la barbe à papa avec des pop-corn salés, et comme la barbe à papa c'est très sucré et très mou, et que le contraire de la barbe à papa c'est pop-corn dur avec du sel.
C'est pour imager le contraste qu'il y a dans l'image entre le blanc des nuages et le noir de la maison, c'est ça?
Oui.
Donc déjà, c'est un projet qui a eu lieu en 3 temps. Le premier temps, ça a été un temps de découverte, déjà, où ils ne sont pas médiateurs, mais en fait, juste, ils découvrent les œuvres. Et il y avait 50 œuvres qu'ils ont pu découvrir. Et alors, ces œuvres, elles ont été sélectionnées, choisies par nous, selon des critères assez variables. D'abord, moi, je voulais vraiment qu'il y ait un peu toutes les époques. Ensuite, je voulais vraiment qu'il y ait autant d'artistes femmes que d'artistes hommes et qu'ils découvrent à la fois des peintres connus, pour qu'ils puissent justement se les approprier, et qu'ils aillent aussi également vers des choses qui sont moins, qu'on pourrait penser moins accessibles pour les enfants, alors qu'en fait c'est faux, parce que tout est accessible pour les enfants, je pense. Donc voilà, et surtout des œuvres qui brassent des thématiques très différentes, les thématiques, je ne sais pas, par exemple du racisme avec Delacroix et le Maroc, des thématiques de l'impossibilité des peuples parfois à s'entendre avec Bruegel et la Tour de Babel, et voilà, les thématiques de la femme avec le corset d'Emily Flogueux. Des thèmes très différents et surtout aussi des œuvres qui permettent de convoquer les sens. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a fait en première semaine, c'est qu'on n'a pas fait juste des médiations en leur expliquant les tableaux. On voulait vraiment qu'ils s'emparent des tableaux à travers leurs 5 sens. Donc voilà, par le goût, par l'odorat, le toucher, etc.
Gaspard.
Est-ce que tu peux me décrire le tableau ?
D'abord, je décris le nom. Le serment des Horaces.
Comment ?
Le serment des Horaces.
C'est qui l'a peint ?
Louis David, Jacques-Louis David. En fait, ils étaient en train de faire un serment à leur père parce qu'il y avait une guerre entre les Alpes et Rome. Et comme champion, Rome, ils ont choisi les Horaces et Alpes, les Curias. Et à côté, il y avait les femmes qui pleuraient parce que s'ils perdaient leur frère ou leur Marie. Et du coup, ils sont allés à la guerre. Il y avait 3 Horaces survivants. Trois Curias survivants. Il restait que 1 Horace. Le seul Horace, il n'avait pas d'armes. Et du coup, il les a fait courir. Et du coup, il les a fait mourir d'essoufflement. Et du coup, c'est Rome qui a gagné.
Je m'appelle Lénaïque. Et mon œuvre, le titre de mon œuvre est La Tour de Babel. C'est un peintre, Bruegel, qui a représenté son village. Et l'histoire de cette tour, c'est que plein de personnes ont construit cette tour pour aller toucher le ciel, pour parler à Dieu, pour toucher Dieu. Mais ils ont pas construit entière. Elle est restée encore sur place, mais on a dû la casser pour prendre des pierres pour faire des maisons, parce que sinon on n'aurait pas assez de maisons. Et c'est grâce à cette tour qu'on a autant de maisons. Dieu, il a brouillé les langues. Il a mis du français, de l'anglais. Il y a des langues différentes maintenant. Et il voulait pas que ça va jusqu'au ciel. Oui, il a dispersé personne sur toute la surface de la Terre. Voilà. Et pour l'ouïe, c'est les oreilles, on écoute. Je vais faire les bruits des bateaux, des vaguelettes, des personnes qui sont en train de tailler les pierres. Voilà.
La mémoire fonctionne énormément sur les sens. Les sens, c'est vraiment la porte d'entrée du monde vers le corps. Et on a essayé de trouver le goût des tableaux, donc quel goût pouvaient avoir les tableaux, et combien c'est le rapport au goût aussi est éminemment subjectif. Et en fait, ça va aussi avec le rapport aux œuvres, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a trouvé que l'œuvre était amère et était triste, et donc il a choisi un goût amer et triste. Alors là où en fait un autre enfant devant la même œuvre va avoir une lecture complètement différente, et c'est aussi ça qu'on a travaillé. C'est la subjectivité.
Noah.
Enzo.
C'est qui l'a peint ?
Une fille.
C'est Artemisia Gentileschi. C'est Judith et sa servante qui ont coupé la tête d'Holoferne parce que Holoferne voulait tuer les Juifs. Du coup, elle, quand les soldats ils ont entouré le village, et ben, ils ne pouvaient plus sortir, ils n'avaient plus d'eau et tout. Et Judith, c'est une reine. Et du coup, elle s'est fait belle, elle est partie avec Holoferne dans la tente. Et après, ils ont mangé ensemble et tout.
Et après, il avait tellement trop mangé qu'il s'est endormi. Et après, du coup, elle a tranché la tête de toutes ses forces d'Holoferne.
Et pourquoi vous avez choisi celle-là ?
Parce qu'on l'aime bien. Moi, j'aime bien aussi les épées, les morts. J'aime bien ça.
Comment tu t'appelles ?
Laura.
Tu as choisi de travailler sur quelle œuvre ?
Marie-Antoinette. Elisabeth Vigier-Lebrun qui a peint cette œuvre et elle a décidé de l'appeler Marie-Antoinette. Elle lui a fait son portrait en fait. Moi j'ai pris l'odorat, le goût, le toucher et la parole. J'en ai pris plein. Et du coup, par exemple par rapport à la robe, l'immense robe, j'ai pris de la soie. Par rapport à l'odeur, j'ai pris le parfum de la rose parce qu'il y a des roses, des fleurs et tout. Et pour le goût, j'ai pris des meringues parce que enfin c'est bien quand enfin la reine elle en mangeait un petit peu enfin de temps en temps.
L'apocalypse joyeuse, cette structure qu'on a créée avec Maëva tous les deux, c'est quelque chose qui est à cheval entre nos deux domaines de compétences. Moi, je suis comédien, auteur, metteur en scène, donc vraiment tourné du côté du théâtre et du spectacle pur. Et Maëva, elle a une formation d'historienne d'art et de médiation culturelle. Donc du coup, l'apocalypse joyeuse va créer des spectacles qui introduisent de l'image, soit en projection, soit en reproduction, ou des projets purement d'histoire de l'art dans lesquels il y a quand même un peu de théâtre, un peu de danse. Donc là, avec les enfants, on a travaillé, tu l'as vu tout à l'heure, sur des ateliers de théâtre, des pratiques de théâtre, mais aussi on a fait des exercices de danse pure sur le mouvement. Par exemple, on est rentré dans certaines œuvres par le corps, en reproduisant les gestes des personnages, en essayant d'imaginer ce qui avait pu se passer juste avant, le moment du tableau, ou juste après. On utilise clairement le théâtre et la danse pour pouvoir développer un peu l'imaginaire qu'il y a autour du tableau.
Yuna, nuit étoilée à Saint-Rémy de Provence.
Qui c'est qui l'a peint ?
Van Gogh. Van Gogh, il avait une maladie, les gens ils disaient qu'il était fou, et du coup il s'est tué.
Tu penses qu'il n'était pas heureux quand il a peint cette œuvre ?
Non, c'était un moment sombre de sa vie. Alors c'est un ciel avec des étoiles, en bas il y a une ville, il y a une église, et au premier plan il y a un grand sapin, vers le troisième plan il y a des montagnes, et il est fait qu'en petits traits.
Tu as choisi d'en parler comment, toi, aux visiteurs de l'exposition ?
En leur faisant toucher des choses, des petites lignes comme sur la peinture. Et écouter la nuit et la nature.
Les bruits de la nuit ? C'est quoi les bruits de la nuit ?
Dans la nuit, il y a par exemple la chouette, on entend des animaux chassés, des bruissements de feuilles, et il y a du silence.
Comment tu t'appelles ?
Isaac.
Tu as choisi de travailler sur quelle œuvre ?
Pompier courant un incendie.
C'est qui l'a peint ?
Gustave Courbet.
Alors, comment t'as décidé de présenter ton œuvre à l'exposition ?
Le goût, le toucher, l'ouïe.
Tu vas faire goûter quoi ?
Du poivre, de la carotte et de l'endive, pour l'amertume, sur le tableau. Et après, pour leur faire rendre compte qu'elle est immense, qu'elle fait 4 mètres par 6 mètres, de la ficelle 2 fois 6 mètres et 1 fois 4 mètres. 2 fois 4 mètres.
Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau ?
Des pompiers. Il y a une pompe à incendie. Bon, pas comme celle d'aujourd'hui, avec une roue en bois et de l'eau à l'intérieur. Ben, ils font un faux incendie qu'au goût. Gustave Courbet a demandé à ce qu'on le fasse. Le faux. Il a demandé à ce qu'ils sortent, tous les hommes. Et ça se voit bien parce qu'il y a un homme pas content. Oui, il a demandé à des vrais pompiers de sortir tout alors qu'il n'y a même pas le feu pour qu'ils puissent le peindre.
Juste un truc, un dernier truc. Pourquoi t'as choisi la carotte pour faire goûter aux visiteurs ?
C'est normal, il y aura de la carotte, de l'endive et du poivre pour faire l'amertume, en fait.
Oui, mais ça, c'est l'endive qui fait l'amertume.
Ouais, mais après, il y a aussi ça, parce que quand même, aussi, c'est piquant.
Le poivre, c'est piquant, et la carotte ?
La carotte, c'est pour un peu accompagner, parce que du poivre et de l'endive, ça va avoir mauvais goût, donc il faut un peu de carotte.
Tu t'appelles comment ?
Lydia. Mon œuvre s'appelle... Mon village...
C'est Marc Chagall qui l'a fait. Marc Chagall est parti à Paris. Il a fait un rêve et son village lui manquait. Et du coup, le rêve qu'il a fait, il l'a dessiné. Et aussi, Marc Chagall, quand il est rentré chez lui, il s'est marié. Après, là, il y a une croix et une étoile parce qu'il y avait deux villages qui faisaient la paix au lieu de faire la guerre. Puis là aussi, il y a une croix. Et puis, Marc Chagall, il était juif et il croyait en Dieu.
Qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants de faire ça, de s'approprier une œuvre ? Alors déjà, ça leur apporte énormément en confiance en eux, déjà. Parce qu'en fait, quand on met quelqu'un dans la position de celui qui sait, et aussi de celui qui doit transmettre, il est à la fois obligé de se sentir légitime, d'être là où il est, et de faire plein de recherches, d'être heureux d'être là où il est. Et il doit aussi se mettre à la place de l'autre qui ne sait pas toujours, de l'autre qui a peut-être un point de vue différent. Et rien que ça, c'est déjà énorme pour un enfant de pouvoir se mettre à la place du visiteur et être au service de la rencontre entre le visiteur et l'œuvre. Donc un peu s'oublier là-dedans et être au service d'une rencontre.
Tout simplement aussi, c'est drôle comme ils voyagent dans les œuvres et ils n'en finissent pas de se montrer des détails. En fait, ils sont chacun responsables, chacune d'une œuvre. Donc il y a 12 œuvres, sauf deux qui sont en binôme. Mais en fait, ils sont très intéressés par les œuvres des autres. Et quand là, on s'entraîne à faire des médiations, ils se les font à eux-mêmes. Ceux qui jouent, les visiteurs, en fait, n'arrêtent pas de donner des nouvelles infos, n'arrêtent pas de voir des nouveaux détails. Ils se demandent si là, le nuage sur la tour de Bruegel, c'est Dieu ou c'est pas Dieu, ou si c'est peut-être juste un nuage d'orage. La première fois qu'ils sont rentrés, ils avaient tout vu, chaque tableau, en moins d'une demi-seconde. Et ils accordaient à chaque image une demi-seconde. Et maintenant, ils sont en train de réaliser qu'en passant une semaine devant la même œuvre, on voit des nouvelles choses, des nouveaux détails. Selon comment on est luné, si on est levé du mauvais pied, on voit de la colère dans le tableau. Et le lendemain, on se dit qu'en fait, c'est beau. Ça, c'est assez drôle juste de voir en fait comment déjà, en parlant, en s'asseyant tous ensemble devant une œuvre et en parlant, en s'écoutant, à la condition qu'on s'écoute, on voit des choses apparaître.
Le fait de côtoyer ces œuvres dont on nous répète en permanence que c'est des chefs-d'œuvre, que ça, de toute façon ça nous dépasse, que c'est dans les grands musées, dans les grandes villes, etc. Ouais. Le fait qu'il les côtoie pendant 2 semaines, 3 semaines ces œuvres à l'école, ici à Vébron, même ailleurs, dans d'autres écoles, c'est aussi faire redescendre tout ça, quoi. Désacraliser le rapport aux œuvres d'art et se dire qu'en fait c'est juste des fenêtres sur le monde et que eux ont leur place là-dedans, en fait. Vraiment, c'est pas réservé aux spécialistes et aux grands pontes.
Et c'est drôle de voir les manières dans lesquelles avec lesquelles ils sont rentrés dans les œuvres. On n'a pas eu les choix auxquels on s'attendait, forcément. Une enfant très calme a choisi une œuvre très tourmentée, avec beaucoup de mouvements. D'autres ont choisi un tableau parce qu'en fait, un personnage lui fait penser à sa mère. Et il y a toujours des choix étonnants. Tous, en fait, c'est des choix assez étonnants. Ouais. Deux garçons qui ont choisi de travailler sur un portrait qui présente deux femmes, peint par une femme. C'est assez étonnant de voir ce qui en sort. Et chez d'autres, c'est représentatif. Ça raconte quelque chose de ces enfants, quoi. Donc, je pense que c'est ça qu'on verra dans le musée, j'espère. On entendra les enfants nous parler de l'œuvre, on regardera un peu l'œuvre. Mais je pense que très vite, c'est surtout une façon de faire des portraits d'enfants. Je pense que très vite, on se dira, tiens, il est marrant celui-ci. Quand il nous dit ça, on sent qu'il parle de lui. Et je pense qu'on les verra beaucoup, en fait. Même s'ils feront plein d'efforts pour s'effacer derrière l'œuvre, parce que c'est ça qu'on leur demande, mais en fait, je pense qu'on les verra.
Comment vous vous appelez ?
Romane Léonie.
Vous avez choisi de travailler sur quelle œuvre ?
Le cirque. C'est Georges Seurat. Il l'a peint en 1886.
Pourquoi vous avez choisi cette œuvre, toi Léonie ? Pourquoi tu as aimé cette œuvre ?
Parce que ça fait longtemps que je la connais et que c'est impressionnant de peindre comme ça.
Parce que c'est peint comment ?
Avec plein de petits points, ça s'appelle la méthode du pointillisme. C'est Georges Seurat qui l'a inventé.
Est-ce que tu peux me décrire, Romane, s'il te plaît, le tableau ?
On voit un cheval avec une danseuse et les lignes diagonales, ça veut dire la dynamisme et la gaieté. Donc par exemple, la dame, elle est penchée, elle est en train de tomber, donc elle est gaie, joyeuse et dynamisme. Et les lignes horizontales, ça veut dire le calme. Et les gradins sont calmes. Au début, on va dire bonjour à tout le monde. On va donner quelques informations. Et après, on leur posera des questions et ils vont nous répondre. Ensuite, c'est eux qui vont nous poser des questions. Ensuite, on partira, on dira au revoir. Et ce tableau, pour préciser, il est au musée d'Orsay. Et si vous voulez le voir un jour, bah, vous pouvez y aller. Et si les spectateurs, ils disent quelque chose, mais c'est pas trop ça, bah, on dit, pour pas les vexer, on dit oui, oui, c'est parfaitement ça. Et après, on dit, et si c'est pas du tout ça, on dit, c'est très intéressant, ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. Et on dit, voilà.
Voilà pour ce reportage qu'avait fait Cléo à l'école primaire de Vébron. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi prochain. Exceptionnellement, pas de matinale lundi. Merci beaucoup, Corto.
À ton service.
Merci à toutes et tous de nous suivre. On se quitte avec Canetit. Le morceau s'appelle Let's Work Together. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous et profitez du soleil. Ciao. Together.